chez d'huile de vidange et de sang d'agneau, peuplé de mécaniciens, de restaurateurs, de marchands ambulants et de vendeurs de jus de fruits. La clameur d'Alep franchissait les volets dès l'aube. Elle s'accompagnait des fluves de charbon de bois, de diesel et de bestiaux. Pour qui arrivait de Damas, Alep était exotique. Plus cosmopolite peut-être, plus proche d'Istanbul, arabe, turc, arménienne, kurde, à quelques lieues d'Antioche, patrie des saints et des croisés, entre le cours de l'Oronte et de l'Euphrate. Alep était une ville de pierre, aux interminables dédales de souks couverts débouchant contre le glacis d'une citadelle imprenable et une cité moderne, de parcs et de jardins, construite autour de la gare, branche sud du Bagdad-Ban, qui mettait Alep à une semaine de Vienne via Istanbul et Konya dès janvier 1913. Tous les passagers qui arrivaient par le train logeaient à l'hôtel Baron, équivalent à l'épin du Pera Palace Stambouliot. L'Arménien qui tenait l'hôtel quand nous y sommes descendus pour la première fois en 1996 était le petit-fils du fondateur. Il n'avait pas connu les hôtes illustres qui rendaient l'établissement célèbre. Laurence d'Arabie, Agatha Christie ou le roi Faisal avaient dormi dans cette bâtisse aux fenêtres en ogive ottomane, à l'escalier monumental, aux vieux tapis usés et aux chambres défraîchies, où traînaient encore d'inutiles téléphones en bakélite et des baignoires de métal à pattes de lion dont la tuyauterie sonnait comme une mitrailleuse lourde dès qu'on en ouvrait le robinet, au milieu des papiers peints fanés et des couvre-lits tachés de rouille. Le charme de la décadence, disait Sarah. Elle était heureuse d'y retrouver l'ombre d'Anne-Marie Schwarzenbach, sa Suissesse errante, qui avait promené son spleen pendant l'hiver 33-34. Les derniers vestiges de la République de Weimar s'étaient effondrés. Un peuple, un empire, un guide, résonnaient sur toute l'Allemagne, et la jeune Anne-Marie voyageait éperdument pour échapper à la tristesse européenne qui envahissait même Zurich. Le 6 décembre 33, Anne-Marie débarquait à Alep, à l'hôtel Baron. Sarah était aux anges quand elle découvrit, sur une page jaunie et poussiéreuse, l'écriture fine et ramassée de la voyageuse, qui avait rempli en français la fiche d'arrivée. Elle brandissait le registre dans le hall de l'hôtel sous les regards amusés du patron et du personnel, habitués à ce que les archives de leur établissement crachent les noms célèbres comme une locomotive la fumée. Le directeur n'avait pas l'heure de connaître cette Suissesse morte qui lui valait une telle démonstration d'affection, mais personne n'a jamais été insensible au charme de Sarah. Il avait l'air sincèrement heureux de la trouvaille responsable de ses transports, à tel point qu'il se joignit à nous pour fêter la découverte au bar de l'hôtel. Sur la gauche de la réception, s'ouvrait une petite pièce encombrée de vieux fauteuils club et de meubles en bois sombre. Un comptoir, avec une barre de cuivre et des tabourets recouverts de cuir, dans un style néo-britannique, équivalent en laideur au salon orientaliste du Second Empire. Derrière le comptoir, une grande niche ogivale avec des étagères sombres regorgeait d'objets promotionnels de marques de boissons des années 50-60, des Johnny Walker en céramique, des chats de la même matière, de vieilles bouteilles de Jägermeister, et de chaque côté de ce musée terne et poussiéreux pendouillait, sans qu'on comprenne pourquoi, deux cartouchières vides, comme si elles venaient de servir pour chasser les faisans imaginaires et les nains de porcelaine qu'elles encadraient mollement. Le soir, dès la tombée du jour, ce bar se remplissait non seulement des clients de l'hôtel, mais aussi de touristes logés ailleurs et venus profiter d'un bain de nostalgie en buvant une bière ou un arak dont l'odeur d'anis, mêlée à celle de la cacahuète et de la clope, était la seule touche orientale du décor. Les tables rondes débordaient de guides touristiques et d'appareils photo, et on entendait, au vol, dans les conversations des clients, les noms de T.E. Lawrence, d'Agatha Christie et de Charles de Gaulle.